Qu'est-ce que ça te fait quand on t'appelle le boss maintenant ? Léa Salamé le dit à chaque fois qu'elle te reçoit, mais c'est vrai, voilà, le boss. Quand je vois des gens comme Laurent Luyat, j'ai pu vous observer hier sur le plateau et après, alors pour toi c'est des gamins, mais on a vraiment l'impression que waouh, on avait Michel Drucker sur notre plateau cet après-midi.
Je ne me rends pas vraiment compte.
Ah bah si, c'est ça.
Non, je ne me rends pas compte parce que comme je suis un anxieux, les anxieux sont souvent des hypochondriaques. Sont souvent pas sûrs d'eux. Moi, j'ai le complexe des autodidactes. Hein, ce matin, je visitais la maison de mon enfance avec une dame qui son mari était agréé. Il y avait son beau-frère qui était agrégé de mathématiques. Elle était professeure de mathématiques. Moi, ça me bluffe toujours. D'ailleurs, la préface de mon livre, elle est de Nathan Devers. Nathan Devers, c'est un auteur, un philosophe de 25 ans, vous avez peut-être aperçu, aux côtés de Pascal Praud, qui est un coup de foudre amical. C'est un mec extrêmement brillant. J'ai rencontré dans mes émissions, je le faisais venir pour qu'il parle de livres. Et puis, on a sympathisé. Il pourrait être mon fils, il a 27 ans. Il est agrégé de philosophie, il est auteur, il est conférencier, et c'est lui qui a fait la préface de mon livre. Non, ma mère aurait été heureuse parce que c'est un normalien, il a fait normal, des grandes écoles, il a fait la préface de mon livre. Et c'est vrai que le boss, je ne me rends pas du tout compte, mais du tout compte. Si je me rendais compte, j'aurais la grosse tête. Non, je ne me rends pas compte, je suis trop anxieux pour ça. Moi, j'ai la première chose que j'ai fait ce matin, j'ai pourvu que l'émission ait bien marché, pourvu que le journal du Tour soit bien passé, j'en étais l'invité, c'est important. Moi, j'ai la même inquiétude. Quand je suis au micro de Vire FM devant toi, Régis, je me dis pourvu que notre entretien se passe bien. J'ai cette inquiétude-là tout le temps, et j'ai déjà l'inquiétude de la rentrée, alors que j'ai 63 ans d'heure de vol. J'ai ça, j'ai toujours eu des doutes. Mais Aznavour m'a dit une chose très juste, qui est à la fin de mon livre, il me disait souvent... Vous savez, Michel, c'était mon voisin en Provence, donc on se voyait beaucoup avec Charles. Il me disait, Michel, si vous voulez durer, soyez aussi inquiet quand ça marche que quand ça marche pas. Donc je suis toujours inquiet. Voilà. Et quand on est inquiet, ça évite de se regarder dans le miroir.
Justement, dans ce livre, Michel, il y a beaucoup de références à des gens que tu as côtoyés, oui. Qui t'ont marqué et qui t'ont à chaque fois apporté des choses comme Johnny Hallyday, on en a beaucoup parlé, mais aussi des gens comme Thierry Leluron et puis des environnements sur les grands podiums qu'on avait à l'époque, les podiums d'Europa, la grande parade, le contact toujours avec le public. Quoi.
Oui, parce qu'on parle de ma carrière télé. Alors c'est vrai que j'ai fait des émissions qui ont marqué les gens, qui couvrent plusieurs générations. D'abord, j'étais reporter sportif. On l'oublie jamais. Et j'étais tellement heureux de retrouver mon métier hier, pendant quelques heures. Quand on est reporter sportif, on connaît la France par cœur. Je connais tous les stades. J'ai commenté des matchs dans tous les stades. Et puis, j'ai fait 5 Coupes du Monde de foot. La première Coupe du Monde, c'était en 1970. La dernière de Pelé, au stade Aztec, à Mexico, devant l'Italie. Ensuite, j'ai commenté la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne, avec Kaiser Franck, c'était Franz Beckenbauer, joueur. Ensuite, j'étais en Argentine pendant la junte militaire, la Copa del Mundo en 1978, Platini déjà, avec un gamin qui piaffait d'impatience car il était trop jeune pour jouer sur le terrain, il était derrière moi qui était Maradona. Et puis j'ai suivi l'équipe Platini, je suis allé à Séville. Hein, pour commenter la coupe en Espagne avec ce drame de Schumacher et Batiston, toujours Platini. Et puis je suis retourné en 1986, après l'Argentine, après l'Espagne en 82. En 86, on m'a demandé de revenir, c'était au Mexique, le dernier match d'équipe de France, et c'est mon dernier commentaire quand je commente le pénalty de Luis Fernandez. Voilà, c'est un quart de finale en plein Cagnard. Platini était blessé et c'est mes adieux au foot. On m'a demandé d'y revenir. J'avais pas confiance en moi. Je me disais, avec Canal Plus aussi, il y a tellement de bons commentateurs qui sont venus. Je vais me planter. Tout le monde me disait, reviens, Platini. Quand tous me disaient, reviens. T'étais un bon commentateur. J'y ai pas cru et je l'ai regretté après puisqu'on l'a gagné, c'est en 98.
Et c'était pas l'année qu'il fallait manquer.
Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Enfin, j'ai fait tellement de choses entre-temps.
Régis évoquait les gens qui comptent. Il y en a un dont vous parlez très souvent. Michel, vous en parlez dans le livre. Vous en parliez hier soir sur le plateau du Vélo Club. Je parle de Léon Zitrone, évidemment. Vous racontiez hier soir les anecdotes que vous avez vécues. Elles sont incroyables à ses côtés lorsqu'il signait des autographes dans le col du Tourmalet. Et vous en parlez dans le livre aussi. Vous aviez 22 ans. Lui en avait, je crois, 50 à l'époque. Et oui, vous lui disiez... Vous lui dites à ce moment-là, est-ce que je serai encore là quand j'aurai votre âge? Ça a été une référence tout au long de la vie, Léon Zitrone.
Oui, lui, mais il n'y a pas que Léon Zitrone, bien sûr. Moi, j'ai toujours aimé les gens qui avaient fait de longues carrières. C'est pour ça que j'étais très proche d'Aznavour. J'ai toujours été proche de ceux qui étaient là il y a longtemps, qui ont fait des longs parcours. Johnny, n'en parlons pas. Eddie Mitchell, tous ces gens-là. J'ai commencé avec eux, donc on est restés très amis. Et il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu Zitrone la première fois, je lui ai dit, Monsieur Zitrone, vous avez, je crois, 45 ans ou 46 ans aujourd'hui, moi j'en ai 22, est-ce que je serai encore à la télé dans des années? Est-ce que j'aurai au moins 50 ans un jour à la télé, alors que j'en ai maintenant 83? Et là, on me disait, écoutez, Drucker, si vous voulez espérer durer, être là à mon âge, est-ce que vous êtes capable de ne pas prendre de vacances pendant 20 ans? Très bien. Est-ce que vous êtes capable de travailler jour et nuit? Et vous êtes capable, ayez pour spécialité de ne pas en avoir. Est-ce que vous êtes capable d'interviewer un boxeur comme un président de la République? Il faudra que vous fassiez ce que faisait très bien Léon Zitrone. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Ça ne se voit pas à l'antenne car je donne une impression de facilité, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. On déjeunait tout à l'heure dans la coulisse de Vire FM. Je pensais déjà à ce que j'allais dire maintenant. Parce que je sais que vous m'écoutez, que vous m'êtes fidèle. Et puis je suis dans une ville qui a tellement compté. Mais c'est vrai que Zitrone... J'ai vécu des moments incroyables avec lui. Quand j'accompagnais sur Interville, un jour il arrive. Alors Zitrone, c'était un personnage, alors et pas très aimé de ses confrères. Il était vraiment toujours un peu... il cirait un peu les pompes des puissants, il était un peu tyrannique avec les petits. Mais il était un monstre sacré, et dans Monstre Sacré, il y a monstre. Et moi, je suivais ce monstre sacré. Il me disait, Drucker, ouvrez vos oreilles et regardez-moi. Vous apprendrez. Et voilà, j'ai appris dans le Tour de France, je l'ai rappelé hier, première fois que je suis un Tour de France, lui était le grand commentateur, moi j'étais juste un petit, là, je suivais uniquement comme stagiaire au service des sports, je crois que c'est dans le Tourmalet ou dans l'Alpe d'Huez. Dès que la pente s'élevait, il se levait en dehors de la voiture, comme Christian Pudhomme, quand il donne le départ fictif, il sortait... comme le pape saluant ses fidèles de sa papa mobile, il bêtissait la foule, bénissait. « Oh, c'est Zitrone, 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 Zitrone !» Moi, j'étais stupéfait, j'étais assis derrière, il était énorme, j'avais ses mollets pratiquement sur mes genoux. Et puis un jour, c'est là le peu de veste, je crois. Au milieu des Zitrone, 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 j'entends « Oh, regarde, regarde, Marcel, regarde, c'est le petit Drucker, petit Drucker !» Zitrone furieuse rassure, il me dit « Vous êtes de la famille dans le coin ?» Ça, c'était Léon. Je l'amène à Interville, il se casse la gueule. Et dans une fosse d'orchestre, en voulant éviter un jeu, une vachette à la répétition, il tombe. Il avait une surcharge pondérale, il pesait plus de 100 kilos. Je dis, mon Dieu, moi le stagiaire derrière, fils de médecin, hypochondriac, je dis, il s'est cassé le dos. Je me précipite. Oh, voilà. Alors lui, t'es théâtral. Oui, je ne vous entends plus, Guy. On m'a cassé mes lunettes, prévenez les miens. Très théâtral, mais il avait très, 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 très mal. Je dis, si jamais il s'est cassé la colonne vertébrale, c'est une horreur. Alors, Léon, non, non, n'approchez pas, Drucker, n'approchez pas, j'ai trop mal, n'approchez pas. Alors, bougez pas, Léon, les civils arrivent, non. Il avait mal, puis je m'approche, il me dit, non, n'approchez pas, Drucker. Bon, alors, les photographes d'abord. Il fait la photo, il avait plus mal du tout, il avait la une d'ici Paris. Ouais, oui. C'était ça, Léon. Mais qu'est-ce que j'ai appris avec lui?
Alors, dans ce livre également...
À un moment, quand j'étais avec lui, les gens le reconnaissaient, ils disaient, je vous interdis de me reconnaître, madame, je vous interdis de me reconnaître. Ici, je suis là en privé avec mon stagiaire. Je vous interdis de me reconnaître. Moi, je dis, monsieur, non, je vous interdis de me connaître. Oh, les gens étaient tétanisés. Non, je suis là incognito, je vous interdis de me reconnaître. Vous imaginez maintenant? Un jour, je me souviens, on prend le train, et puis c'était encore une locomotive à vapeur, je l'accompagnais je ne sais pas où. Le train s'arrête, je crois que c'était dans le midi. Il découvre que Zitrone était à bord. Alors, c'était la bête humaine, quoi, les mécaniciens de la voiture, des trains à l'ancienne. Il dit, oh, Marcel, regarde, qui en avait? Monsieur, on ne se connaît pas, nous n'avons pas gardé les cochons. Sidéré. Oh, Zitrone, il les envoie foutre. Moi, j'étais derrière, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y en a qui manque de sang-froid, qui dit « Oh, oh Zitrone, bah, va te faire foutre !» Il lui donne une baffe, il y avait les 5 doigts marqués, le charbon sur son visage. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Mais je vais être trop bavard. Ouais.
Un mot, tu parles aussi dans ton dernier livre, donc avec le temps, séance dédicace, je le rappelle, à la radio dans quelques minutes, de l'époque actuelle, de ta difficulté à t'inclure ou pas t'inclure justement dans les réseaux sociaux. Et tu dis aussi que bah, le public de France 3, c'est un public senior, oui, qui a encore le réflexe de la télé, quoi.
Oui, bien
et pas
sûr.
Des réseaux sociaux.
Mais je suis fier d'avoir un public senior. Je suis le plus ancien, le plus vieux des jeunes ou le plus jeune des vieux. Mais c'est très important. Il y a à peu près, en gros, entre 800 et 1 million de gens qui nous suivent tous les dimanches à 13h30. J'en suis très fier, sans parler des replays. Et c'est un public très important. C'est un public qui n'est pas encore, qui ne vit pas toute sa vie à travers des portables et qui ne vit pas que sur les écrans. Il y a encore des gens qui sont fidèles à la télévision linéaire et qui sont fidèles à leur, voilà, le dimanche, c'est sacré. Le dimanche, dans les campagnes, je ne sais pas si c'était le cas encore quand j'étais là, eh bien, on va à la messe, on va chez le pâtissier, il y a le déjeuner avec la famille, et puis pendant des années, puis on regarde la télé. Avant, c'était télé dimanche. Ensuite, il y a eu Jacques Martin pendant 26 ans, et voilà, et depuis 26 ans, il y a maintenant Vivement Dimanche. On a gardé ses réflexes. Le déjeuner du dimanche en province, mais tu le sais, Régis, puisque tes auditeurs savent de quoi je parle, dans les campagnes, dans la France profonde, le déjeuner du dimanche, c'est sacré. Les jeunes de banlieue qui me connaissent, ils me connaissent parce qu'ils déjeunent chez leurs grands-parents le dimanche. Le dimanche, il y a toujours la famille qui se réunit. Donc les jeunes me connaissent parce que quand ils arrivent, il y a la mamie ou le grand-père qui regarde Vivement Dimanche. Et puis dans Vivement Dimanche, on a une programmation qui est plutôt senior, mais pas que. Voilà, il y a évidemment les grands classiques. Hein. Il y a Eddie Mitchell, il y a Johnny, etc. Il y a Julien Clerc, il y a Sardou, mais également les jeunes. Voilà, on peut parler des rappeurs, on peut parler d'Aurel San, on peut parler de le dernier vainqueur de la Starac,
Pierre Gardet, oui,
qui est de Villedieu-les-Poêles.
Mmh, tout à fait.
Donc voilà, c'est-à-dire on montre aux gens ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aiment et ce qu'ils pourraient aimer. Ça pourrait être Vivement Dimanche d'hier, d'aujourd'hui, de demain.
Et ce qui est étonnant, anecdote, on n'a pas eu le temps de se la raconter hier à table avec les gens du Tour. À côté de moi, le responsable des relations avec la collectivité, 36 ans, et qui me dit au bout d'un moment, alors il voit... Tous les soirs, il en repart avec des personnalités, etc., sur la route du Tour. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. Et il me dit à un moment, il me dit, tu te rends compte? J'en reviens pas, je mange à côté de Michel Drucker. Voilà. Bon, à Vire, je mange à côté de Michel Drucker. Et là, c'était le repas qu'il retiendra de l'histoire du Tour 2025.
Ça me sidère toujours. Ça me sidère toujours parce que j'ai un recul formidable là-dessus. Et puis bon, il y a des gens plus importants que nous. Mes héros aujourd'hui, j'en parle dans mon livre, oui, c'est le chirurgien qui m'a sauvé la vie. Il s'appelle Paul Achoux, il m'a opéré 2 fois du cœur, il m'a sauvé la vie. C'est le professeur Agège à Pompidou, qui lui aussi s'est aperçu que j'avais 2 choses très graves et que j'avais peu de chances de m'en sortir. C'est le cardiologue qui m'a assuré ma rééducation, c'est les infirmières, et puis c'est ma famille aussi. Pour rester calme, il faut avoir une famille qui vous aide à rester calme. J'en parle des couples dans mon livre. Dans les gens célèbres, tous les gens célèbres ont derrière eux quelqu'un de très costaud. Annie Cordy n'aurait pas fait sa carrière sans son mari. Pierre Perret, jamais sans Rebecca, sans sa femme. Le président Macron, sans sa femme, sûrement pas. Chirac sans Bernadette, évidemment. C'est très important, très important. Céline Dion sans René Angélil, bien sûr. Derrière quelqu'un de célèbre, femme ou homme, quelle que soit la carrière, il y a toujours quelqu'un. Ou quelqu'un de la famille. Pour rester calme, il faut avoir autour de soi des gens qui vous aident à rester calme. Moi, je sais, dans mon entourage, j'ai toujours des gens qui me connaissent par cœur. Aujourd'hui, c'est Philippe Alain, qui est mon beau-frère, mais c'est mon frère pour moi, qui m'accompagne depuis tant d'années, qui me connaît par cœur. Il était déjà là quand je suis venu signer mon premier livre, il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il sait, il me connaît par cœur, par cœur, par cœur. On n'a même pas besoin de parler et de se regarder. Et c'est vrai que dans notre métier... Je lui dis, tout le monde me demande des conseils. Cyril Ferraud m'en a demandé beaucoup. De la Rue m'en a demandé beaucoup. Toute la nouvelle génération m'en demande. Léa Salamé, tous ceux que vous connaissez, Faustine Bollard. La seule chose que je peux leur dire, soyez vous-même, mais restez calme. Et faites attention, car ça ne peut ne pas durer. Soyez aussi inquiets si ça marche, quand ça ne marche pas.
Et tu as envisagé le moment où tout peut s'arrêter, ou tu décides toi-même de t'arrêter?
Ben, c'est tout le problème, c'est la fin de mon bouquin. Moi, je suis partagé entre mourir sur scène, c'est Dalida, tout est résumé dans la chanson, et puis et continuer le plus possible. Mais après tout, quand je vois qu'Hugo Frey a 95 ans, hein, pas mal.
Iseo Santiano. Hein.
Voilà, ouais. Duhamel, 83-84, il est encore là. El Kabash a continué jusqu'à 88 ans. C'est la maladie qui l'a rattrapé. Donc je me dis que j'en ai encore sous la pédale, j'ai encore des choses à dire. Et puis, je veux remonter sur scène. J'espère bien revenir un jour dans la salle qui porte mon nom à la halle à Vire. Hein, voilà, je cherche un titre. Ça s'appellerait « Je vous ai pas tout dit ».
Oui.
Je vous ai pas tout dit. Ce sera un petit peu mon livre sur scène, quoi, avec le temps.
La fidélité, Michel, c'est fondamental. Ça a caractérisé toute votre vie. Ouais. Vous en parlez évidemment dans l'ouvrage. La fidélité en amour, vous le disiez. La fidélité dans les amitiés. La fidélité dans les relations dans le milieu du travail. La fidélité même dans votre lieu de résidence. Vous vivez depuis plus de 60 ans dans le quartier des Invalides. Oui. C'est tout ça qui vous caractérise. C'est la fidélité en général.
Quand je vais rentrer ce soir, eh bien, je vais retourner chez moi. J'habite à 50 mètres de la rue Cognac où j'ai débuté. Je suis là depuis 63 ans. Voilà, je vais aller voir les casernes des pompiers pour le 14 juillet. Je vais croiser Rachida Dati et mon maire. Et je suis fidèle au quartier de mes débuts. Je vis là où j'ai commencé. Et voilà, et il faut rester fidèle. Vous savez, si vous prenez Patrick Sébastien, il est resté fidèle à la Corrèze. Vous prenez Jean-Pierre Foucault, fidèle à Carrie Lerouac, à la Provence. On est tous des provinciaux, tous des provinciaux. Vous prenez beaucoup de gens qui viennent de Bordeaux. Il n'y a pas beaucoup de vrais Parisiens à la télévision. Et moi, je suis très, très fier d'être quelqu'un de la campagne, car on est à la campagne ici. Et c'est pour ça que je suis resté calme. Parce que mon père, je me souviendrai toujours que mon père, quand je lui dis que j'étais fatigué, il me disait « T'es fatigué ?» Tu sais que ce que j'ai fait cette nuit, j'ai fait un accouchement à Trutmer-le-Grand ou à Roulour, en plein brouillard. Je trouvais pas la ferme et j'ai accouché une dame qui accouchait chez elle, car on n'accouchait pas à la maternité. Et il me disait toujours, t'es fatigué? Quel âge tu as? Je dis, papa, j'ai bientôt 40 ans. 40 ans, tu gagnes bien ta vie. Les gens célèbres, tu les connais. Tu sais combien ça gagne une infirmière? Je n'ai plus jamais dit à mon père que j'étais fatigué.
On va conclure là notre nouvelle rencontre au micro de la radio cet après-midi, Michel, parce qu'il y a des gens qui nous attendent pour les dédicaces du dernier livre. Moi, je voudrais retenir une phrase importante parce que je pense qu'elle résume ta pensée actuelle. Quand tu te demandes qu'est-ce qu'on voudrait retenir de toi et que tu dis que les gens m'ont beaucoup aimé et que j'aurais bien rendu.
Oui.
Ça, c'est une superbe phrase.
Oui, j'ai le goût des autres. Mon père disait, mais finalement, mon fils Michel, il est un peu le médecin des âmes. Et c'est vrai, je suis très sensible à ce que me disent les gens. À Vire, hier, le nombre de mains que j'ai serrées, le nombre de gens qui m'ont dit, ah Michel, on est content que tu reviennes, ils m'ont tutoyé. Subitement, j'ai redevu le petit Michel du lycée Émile Maupas. Ton papa a soigné ma grand-mère. Et mon papa a mis au monde l'ancien maire de Vire, faut jamais l'oublier.
Tout à fait.
Voilà, et puis voilà, c'est vrai que j'ai aimé les autres, je crois que je les ai bien rendus, et cette histoire d'amour, Barbara disait, ma plus belle amour c'est vous, mais ma plus belle histoire d'amour, à moi c'est quand même avec le public. C'est le public, c'est-à-dire que c'est le public qui me connaît par cœur, qui sait tout de moi, et qui vient me voir, et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce qu'il ne se rend pas compte que tout ça, c'est beaucoup de travail, que ça me fait très plaisir et que c'est pas non plus un métier facile. Parce que on donne l'impression que c'est facile à la télé. Quand vous avez regardé le Vélo Club hier, je l'ai vécu de l'intérieur, il faisait très 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 chaud. C'est un boulot de chien. Hein. Et il faut donner l'impression qu'on s'abuse. On est là pour distraire les gens. On n'est pas là pour raconter les coulisses, ce qui se passe en cuisine. Mais en cuisine, je peux vous dire qu'on a chaud et ça bosse. Ça bosse beaucoup. On ne peut pas réussir à la télévision si on ne bosse pas. Il faut beaucoup travailler, et je le répète, avoir des gens qui vous font garder la tête sur les épaules. C'est ça, le danger, c'est ça, de se dire c'est arrivé, il peut tout m'arriver. Non, on n'est jamais arrivé.
Et comme tu le fais avec là les moyens modernes, les fameux selfies, le nombre de photos que tu as faites hier avec le public, parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent pas. Hein. On va tout droit, on fait mine de pas entendre, c'est facile. Ouais, hein. Mais toi, non, jamais.
Non, jamais. Non, je me lâche jamais des gens. La passion fatigue pas. Et puis, il faut travailler. Et c'est pas un travail, c'est une passion. On a une chance formidable d'avoir un métier de passion. Je vois bien hier, je vous ai observé, toute l'équipe, la Dream Team de Vire FM, vous avez vécu un moment incroyable. C'était beaucoup d'émotions, je l'ai vu dans vos visages. Mais c'est aussi beaucoup de travail, je le sais. On parle de l'arrivée du Tour. Vous attendez ça depuis tellement longtemps. Ensuite, pour Thierry Gouvenou, quand on s'est vu sur la scène du Palais des Congrès, Régis, en octobre, quand on a eu le parcours officiel du Tour de France, ben j'ai vu des gens que j'ai revus dans mon émission quand vous êtes venus dans Vivement Dimanche. Je les ai revus hier. J'ai vu un petit peu sur leur visage la satisfaction, parce que ce que vous avez fait est extraordinaire. On ne dira jamais assez ce que c'est pour une ville de recevoir le Tour de France. Mais pour une ville comme Rennes ou comme Pau, voilà, ou comme Caen, c'est pas pareil. Là, c'était Vire, la petite sous-préfecture du Calvados, là où j'ai grandi. Hein, c'était pas non plus ni Bordeaux, ni Montpellier, ni Marseille. C'était Vire. Le monde entier, 190 pays, me rappelait Christian Prudhomme hier, ont découvert la porte-horloge. Vire Normandie, where is Vire Normandie? Ils ont découvert Vire Normandie. Je sais pas, vous en rendez pas compte maintenant. 190 pays, en Australie, en Colombie, en Afrique du Sud, un peu partout, on a vu la ville de Vire, on a vu la porte-horloge. Alors, vous en rendez pas compte maintenant, mais les retombées sont considérables. Il y a eu plus de 4 millions et demi de gens qui ont regardé l'étape. Ça veut dire qu'il y a des pointes à 5 ou 6 millions. Le Vélo Club a fait un score considérable, plus de 2 millions et demi, moyenne,
oui, tout à fait.
Avec, je sais pas, peut-être pas loin de 25 téléspectateurs, 30 sur 100 qui étaient devant les images du bocage normand. C'est quelque chose de magnifique. Et moi, je l'ai ressenti évidemment à plus d'un titre. D'abord comme professionnel de la télévision, c'est mon métier. Et ensuite, subitement, comme ancien virois. Donc j'ai eu des émotions. Alors j'imagine Thierry Gouvenou, vous imaginez. Ses parents vendaient des vélos au pied de ma maison où je suis allé ce matin. Et le Vélo Club du Bocage, il a fait toutes ses armes ici. Il a gagné beaucoup de courses. Il a fait le Tour de France. Il a gagné Paris-Roubaix amateur. C'est un bon coureur. Moi, je l'ai connu dans l'équipe Z. On était le parrain à l'époque de Greg LeMond. Et il devient le numéro 2 du Tour de France, aux côtés de Christian Prudhomme, qui fait le tracé du Tour. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Thierry Gouvenou est la cheville ouvrière du Tour. Hein. C'est lui qui fait le tracé. C'est considérable. Mais... Et puis maintenant, le Tour féminin avec Marion Rousse. Non, c'est... Et puis en plus, j'ai une passion pour le vélo qui est sincère. Moi, mes idoles, c'était Anquetil, évidemment. C'était les Bretons, c'était Robic, c'était Gérard Saint. Ma génération s'en souvient peut-être, qui était d'Argentan. Et puis le Anquetil, évidemment, c'est-à-dire que la Normandie est un terre de cyclistes. La Bretagne, maintenant, qui va arriver bientôt dans les Côtes du Nord, ils y sont maintenant, qui va arriver à Saint-Méen-le-Grand, hein, où j'étais pendant la guerre... Où les parents de Bobet étaient boulangers. J'y allais à vélo avec mon frère. Et puis pour la première fois, il faut le dire, vous n'êtes pas vraiment rendu compte, c'est la première fois que le Tour fait uniquement le Tour de France, c'est-à-dire en France, excusez-moi, en France. Le départ avait eu à Lille, on arrive aux Champs-Élysées, sans aller sur aucune frontière. C'est la première fois depuis très longtemps. Mmh. Alors qu'avant, il est parti du Danemark, n'est plus partout. Donc c'est un Tour très particulier. Et voilà, je ne l'oublierai pas. Et ce passage à Vire, je ne l'oublierai pas. Et je vais signer des livres tout à l'heure avec des gens qui vont me dire ah bah j'ai connu ton papa, j'ai connu ta maman et ton frère Jean, j'étais à l'école avec lui, ça me fait de la peine qu'il ne soit plus là. Et ton frère Jacques, comment il va? Et toi, Thermi, comment va ton cœur? Mon grand-père a eu la même chose que toi. Parce que maintenant, je suis également un ancien opéré du cœur. On me demande des nouvelles de ma santé, qui est très émouvant. Quoi. Mmh. Alors voilà, bah, je dis, bah, je suis en forme, vous me retrouvez à la rentrée pour la 63e saison de Vivement Dimanche, et j'aurai 83 ans le 12 septembre. Voilà.
Retenez bien la date d'anniversaire.
Voilà, on me dit encore, mais vous ne les faites pas, alors ça me fait plaisir.
Bah, tout à fait. Merci beaucoup, Michel, de
toutes
ces...
J'étais un petit peu bavard, Régis.
Non, non, pas du tout. On se retrouvera donc dans quelques instants avec le public, donc au niveau de la séance de dédicace. Venez nous rejoindre, Route de Caen, rebaptisée rue Morane. On voulait absolument qu'il ait le nom d'un chanteur ou d'une chanteuse.
Je peux te reposer une question. Ouais. J'ai su enfin hier pourquoi il y a un boulevard qui porte un nom mexicain.
Atlacomulco, oui. Oui. Oui, oui, oui.
Ça n'existait pas que j'étais là. Non. Je crois que ça vient de M. Stirne.
Tout à fait. Il voyageait beaucoup à l'époque.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il voyageait beaucoup à l'époque, quand il était ministre des Outre-mer, du tourisme, etc. Et il avait tendance, quand il avait un coup de foudre pour une ville, à vouloir la jumeler avec Beer. Et c'est ce qui s'est passé avec ce passage à Atlacomulco. Et on en a fait donc une rue Atlacomulco. Voilà.
C'est fou ça, c'est mexicain.
C'est mexicain.
C'est des touristes mexicains qui viennent à Vire, ils vont être sidérés.
Ah oui, 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 ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé.
Une avenue mondialement connue désormais.
Mondialement connue maintenant, grâce au Tour de France, l'avenue Atlacomulco. Merci Michel.
Alors vive Vire FM. Et puis vive. Et vivement dimanche.
Et vivement dimanche. Et vivement dimanche. Merci Michel Drucker.
Merci à toi.
Tout de suite, rue Morane, route de Caen, dans nos studios. Pour la séance de dédicace, on vous attend.